16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie de l'érudit et drôlatique Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, chaque après-midi, vous le savez, on se balade dans l'histoire à la rencontre de trois personnages différents mais qui avaient un point commun.
Et aujourd'hui Stéphane, attention, je vous dis... Oh les mains Stéphane, ils sont armés.
Oui, cet après-midi, il faudrait être très très gentil avec nos personnages qui, eux, n'étaient pas forcément. Surtout le premier. Je vous raconte Basil Zaharoff, un homme de chair et surtout de sang qui a inspiré un personnage dans Tintin, devenu l'un des plus puissants marchands d'armes durant l'entre-deux-guerres. Beaucoup de légendes qu'il a savamment orchestrées tout au long de sa vie entourent cet homme dont on est au moins sûr d'une chose. Et il n'avait aucun scrupule, vous verrez. Puis, personne ne bouge, je vous raconte celui qui a armé l'Amérique avec un revolver devenu mythique, notamment dans les westerns, Samuel Colt et son Colt. Et de votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un personnage plus proche de nous, lui aussi adepte des très gros calibres.
Oui, Stéphane, même si à l'occasion, il sait aussi se servir de son pied.
T'aimes bien les omelettes ? Tiens, je te casse les œufs.
Terminator, c'est évidemment Arnold Schwarzenegger, le bodybuilder devenu star du cinéma, puis gouverneur de Californie, qui aime les armes, mais seulement au cinéma. Portrait de ce républicain en faveur du contrôle des armes, progressiste à bien des égards, et qui casserait volontiers les œufs à Donald Trump.
Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour messieurs. Oui, non, mais je suis un petit peu consterné parce qu'évidemment ça c'est bien les garçons là s'intéresser aux armes, aux Kalachnikov, aux pétrolettes et aux Colt. Eh bien moi je vais vous parler.
Il y a quand même des boulets de Napoléon.
Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Mais je pensais que vous l'aviez oublié, David. Mais en tout cas, là, je vais vous parler de femmes dont les seules armes étaient des ambulances et des trousses de premier secours. On les appelait les Rochambelles, des femmes très courageuses. C'est une unité d'infirmières volontaires dont l'objectif était d'aller participer à l'évacuation des blessés dans les zones de combat lors de la libération de l'Europe. C'est une très belle histoire. Et donc voilà, des femmes désarmées n'ayant pour seule arme qu'une trousse de premier secours. C'est
et
beau,
leur générosité.
Ça.
Et Clémentine, vous êtes raccord avec David Castillo-Lopez. Oui. Aujourd'hui, si vous êtes concerté.
Oui. Dans sa trousse médicale, il y a un stéthoscope. Castello.
Oui, tout à fait. Un stéthoscope. Un truc un peu fascinant qui, c'est vraiment le truc qui fait médecin tout de suite.
C'est
si on met ça autour de son cou, on dit ah, il a l'air compétent.
C'est vrai que dans les scénarios érotiques, on achète souvent ça pour éventuellement une petite soirée. Oui, je vous donne
vous
ce conseil.
Vous faites des scénarios érotiques.
Mais, non, mais je ne parle pas de moi personnellement. J'ai des amis qui l'ont fait. Effectivement. Olivier Pouls, par exemple, fait partie de ses amis à la vie dissolue. Olivier, vous êtes notre spécialiste gastronomique. Chaque jour, l'histoire d'un plat. Aujourd'hui,
oui, aujourd'hui, ben, tu sais quoi, j'ai un trou là.
Le saumon.
Alors Olivier, je te souffle, je te souffle, personne n'aura. Le saumon en belle vue.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un plat délicieusement oublié, vous savez, un peu kitsch. Le saumon en belle vue, est-ce que vous vous souvenez de ce
non,
que c'est?
Non mais belle vue, est-ce que ça a un lien avec la Pompadour?
Oui. Oui. Et elle avait une manière de préparer certains plats dits en belle vue, et c'est resté. Et c'est délicieusement désuet comme plat.
Enfin, depuis quand la Pompadour fait la cuisine?
Non, mais vous voyez, elle a donné
bien son
nom.
Bah
oui.
Et puis qu'est-ce que vous en savez d'ailleurs? Vous étiez dans les cuisines.
Si ça se trouve, elle a donné des petits plats.
Bien sûr, j'étais bien.
Vous s'engueuler. Il y a quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord dans cette émission. C'est évidemment le quiz Born to be Alive. Là, c'est très simple. Deux candidats, un gagnant, un perdant. Le perdant, c'est Stéphane. Le gagnant, c'est Clément. C'est souvent comme ça que ça se passe, c'est vers 5h-10 dans Historiquement Vôtre. Mais tout de suite, découvrons notre premier homme armé du jour. Stéphane Bern enfile son gilet pare-balles pour nous présenter Basil Zaharoff, un des plus grands marchands d'armes du XXe siècle.
Europe 1, 16h-18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Marchand de mort, suprême incarnation de l'avidité, essence même du mal, super vendeur de la mort, moissonneur de trépas, bandit souillé de sang, charognard, bête immonde qui se repaît de chair vivante aussi. À lire tout ce qui a été écrit au sujet de Basil Zaharoff, on croirait davantage à un démon qu'à un homme. Et pas n'importe lequel, le diable en personne. Je cite encore, « L'un des plus grands génies du temps, le véritable maître du monde, l'as des as, que d'hyperbole peut-on trouver à son sujet, et que de descriptions diverses et variées, il semble que l'homme a tout été. » Grec, Turc, russe, français, juif, catholique, orthodoxe, balayeur, commerçant, rabatteur, pompier, officier d'artillerie, guide touristique, employé de banque. Il faut avouer qu'il n'est pas non plus à une contradiction près. Philanthrope, criminel, génie, vaurien, discret, fantasque, secret, médiatique, extrêmement pauvre, immensément riche. Il existe, vous l'avez compris, autour de Basil Zaharoff, un véritable mythe. Comme s'il s'était agi d'un personnage de légende, d'un fantôme, plutôt de ce qu'il était vraiment. Un être de chair, mais surtout de sang. Cette mystique, on la doit à son destin hors du commun, bien sûr, mais aussi et surtout à la grande part de mystère qui entoure sa vie. De Basil Zaharoff, on connaît son visage. Il s'est affiché à moult reprises dans les journaux de l'entre-deux-guerres, mais pas grand-chose de ce qui se cache derrière ce physique. Un physique dont la représentation, faite par Hergé, avec son personnage de Bazarov dans l'oreille cassée de Tintin, semble correspondre. Chapeau rond, barbichette blanche, canne, l'Oden vert. Ce mystère, Zaharoff l'a lui-même cultivé, en s'inventant plusieurs passés, en changeant régulièrement de version, en ne démentant jamais les rumeurs, et même en détruisant systématiquement les documents qui auraient pu aider journalistes et biographes à reconstituer son parcours. L'énigme Basil Zaharoff débute donc dès ses origines. La version la plus courante, et celle qui semble véridique, fait état d'une naissance en 1849 dans une famille d'origine grecque vivant dans le village de Mouklios, appelé aussi Mougla, en Anatolie centrale, dans ce qui était alors l'Empire ottoman. Leur nom, à consonance russe, Zaharoff, aurait été russifié dans les années 1820, bien avant la naissance de Basile, lorsque forcés à l'exil par les pogroms anti-grecs, ils auraient fui Constantinople pour la Russie, avant de revenir s'installer en Turquie presque deux décennies plus tard. Tout cela, j'insiste, est à considérer avec prudence, car dans des versions sur ses origines, il en existe plusieurs. L'une d'entre elles, par exemple, lui prête des origines russes et juives et évoque une naissance à Odessa dans une famille de modestes commerçants. Une autre encore le désigne comme un ex-évêque catholique orthodoxe, ancien favori du pouvoir russe, exilé pour avoir osé offrir à la tsarine de fausses pierres précieuses. Rien à voir donc. Et ce n'est pas fini. Le flou s'épaissit encore davantage au sujet de ses jeunes années. Basil Zaharoff les aurait apparemment passées dans les quartiers pauvres de Constantinople, où il était un enfant des rues, un petit voyou qui gagnait sa croûte grâce à des petits métiers et des larcins. Balayeur à l'âge de 8 ans, puis portier de bordel, rabatteur pour les prostituées de quartier, mais aussi guide touristique, arnaqueur ou pompier, incendiaire et cambrioleur. Là encore, vous voyez, il existe d'autres versions, celle d'un jeune nanti ayant fait des études à Cambridge, Oxford ou Paris, oui, ou encore celle d'un pauvre russe d'origine juive incorporé de force dans l'armée. Oh, bien sûr, ces légendes ne peuvent pas toutes être vraies, mais toutefois, mises bout à bout, elles racontent quelque chose d'essentiel sur Zaharoff, sa capacité à brouiller les pistes. Une chose est sûre, il semble que l'homme est un don, celui de fabulateur, pour ne pas dire escroc. Il sait s'inventer des identités, d'autant plus facilement d'ailleurs qu'il est polyglotte. Il parle russe, anglais, français, polonais, grec, turc. C'est grâce à cela, semble-t-il, qu'il parvient à s'introduire dans les hautes sphères de la société, notamment à Athènes, où il s'installe à l'âge de 24 ans et où il va décrocher le job de ses rêves en faisant la rencontre, fortuite, d'un marchand d'armes à la recherche d'un successeur. Et ce sera lui. Très vite, il devient évident que ce métier est fait pour Zaharoff. Personne n'a sa capacité de persuasion. Personne non plus n'a si peu de scrupules. Il en fait la démonstration en 1885 durant la guerre russo-turque en parvenant à persuader les deux camps de la nécessité d'acheter des sous-marins. C'est le début d'une ascension fabuleuse. Il devient le maître incontesté des vendeurs d'armes. Il écoule tout, fusils, mitrailleuses, canons, cuirassés, avions de combat et même des arsenaux tout entiers. De vendeur, Zaharoff grimpe les échelons et amasse une fortune gigantesque. Avec ses commissions, il rachète des parts chez un fabricant d'armes britannique, la Vickers, se frayant un chemin jusqu'au conseil d'administration. Puis, à la tête de l'entreprise. Son champ d'action ne cesse de s'étendre. Balkans, Espagne, États-Unis, Russie, Japon, Italie, Bolivie, Venezuela, Paraguay, Panama, France. C'est dans l'Hexagone, d'ailleurs, qu'il s'installe, dans un hôtel particulier de la très chic avenue Hoche à Paris. Il achète aussi le château de Balincourt, au nord-ouest de la capitale. C'est là, dit-on, qu'il reçoit secrètement les grands de ce monde, les responsables militaires, les ministres, les chefs d'État. Pas un conflit ne lui échappe. Pas un dirigeant ne lui résiste. Pourquoi ? Comment fait-il ? Il a une méthode bien huilée que certains désignent sous le nom de système Zaharov et qui repose essentiellement sur trois principes. D'abord, la corruption. Zaharov n'hésite pas à conquérir de nouveaux marchés à coups de pots de vin. Des bijoux pour les épouses des décideurs, des dessous de table, des bordels privés pour compromettre ses clients. Deuxième principe, le plus ignoble sûrement, consiste à nourrir les conflits, à vendre une arme à un pays pour mieux convaincre celui d'en face de la nécessité d'en acheter aussi. Si l'on en vend un au premier, le second sera plus facile à convaincre. Et le troisième pilier, enfin, c'est le crédit. Pour booster les commandes, le marchand prête de l'argent à ses clients en guerre. Zaharov est un profiteur, mais aussi un véritable fauteur de guerre. Ce qui lui vaudra bientôt d'être montré du doigt par les médias de l'Europe tout entière. Car s'il est un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui, il fut un temps bien connu du grand public pour son rôle édifiant dans la Première Guerre mondiale. Pour Zaharov, ce conflit d'une ampleur nouvelle est une bénédiction. Il vend des munitions aux alliés. L'estimation de ses ventes donne le tournis. 100 000 fusils, 5 500 avions, 2 300 canons, 52 torpilleurs, pour un bénéfice de 3 milliards de francs, au moins. Et même dans ce contexte, il joue pour les deux camps, semble-t-il. Clémenceau, puis Poincaré raconteront qu'il vendait du carburant à l'Allemagne. Il était si puissant qu'il pouvait influer sur le cours des combats, empêchant un camp d'attaquer là où il avait des intérêts. Après-guerre, les dénonciations à son encontre n'entament pas son influence. Il est même fait commandeur de la Légion d'honneur pour service exceptionnel rendu aux alliés. En 1919, Zaharov se fait vieux. Il a 70 ans, mais il n'a jamais été aussi puissant, on le voit partout. Il impose sa volonté sur le monde de la diplomatie mondiale, joue encore et toujours la course aux armements. Il poursuit aussi d'autres activités lucratives. Il est patron de presse, industriel, banquier, magnat des mines, du pétrole, armateur. Il poursuit aussi un autre dessein, celui de posséder la principauté de Monaco.
Carrément.
Pourquoi ? Il veut l'offrir à une femme. Car oui, Zaharov était aussi un homme à femme. Mais là, c'est de l'amour de sa vie dont je parle. La duchesse espagnole Maria del Pilar, avec qui il entretient une liaison secrète depuis plus de 30 ans. Zaharov aurait-il donc eu un cœur ? Assurément, puisqu'il sera brisé en 1926, quand la duchesse meurt de la tuberculose. Le laissant inconsolable, dit-on, il délaisse dès lors ses activités, ne voyage plus, et attend paisiblement la mort, qui surviendra 10 ans plus tard, en 1936, des suites d'une crise cardiaque. Oui, Zaharov avait bien un cœur qui a fini par lâcher.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Basile Zaharov, nous sommes avec l'historien Tristan Gaston-Breton. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Tristan Gaston-Breton. Vous êtes l'auteur de Basile Zaharov, l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes du monde, paru chez Talendier. La vie de Basile Zaharov est pleine de trous, si je puis dire. Et il y a toute une mythologie autour du personnage. Ça a été, j'imagine, un vrai casse-tête pour vous d'écrire cette biographie, comme ça l'a été pour que je puisse faire ce récit. Vous avez trouvé des sources sûres ou vous-même, vous avez toujours hésité entre différentes versions?
C'est que l'homme, vous l'avez dit, fait tout pour cacher ses origines. Vous savez, il y a une note d'un inspecteur de la Sûreté Générale qui dit que M. Zaharov est un mystère impénétrable. Donc oui, il y a des sources, il y a un gros dossier aux archives nationales qui s'appelle le dossier Panthéon, dans lequel vous avez toute une série de rapports de police, de la Sûreté Générale, des services secrets qui essaient de savoir qui est ce monsieur. Et dans le fond, personne ne le sait avec certitude. Donc c'est un casse-tête, oui. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut reconstituer, sa naissance, ses origines probables, une partie de son parcours. Mais c'est ça qui précisément fait l'intérêt de la vie de ce personnage, c'est qu'il est complètement insaisissable. Et ça le rend absolument fascinant.
Alors, si le mystère subsiste autour de ses origines, l'origine de sa fortune est bel et bien connue, le commerce d'armes. Qu'est-ce qui fait qu'il a excellé dans ce domaine-là? On a évoqué son sens de la persuasion, son absence de scrupules. Quoi d'autre? C'était quoi ses qualités?
Écoutez, je pense que sa qualité, c'est d'avoir mis sa qualité principale, je ne sais pas si c'est une qualité d'ailleurs, c'est d'avoir mis son formidable sens de l'entre-genre, de la débrouillardise, du charme, parce que c'était un grand charmeur, au service d'une grande industrie. En fait, c'est un marchand d'armes devenu industriel de l'armement. Donc l'homme sait très bien y faire, il est polyglotte, vous l'avez dit, donc il sait se mouvoir à peu près partout. Il a des manières absolument excellentes. C'est un homme fort bien éduqué et dont la chance finalement est d'avoir croisé Vickers, donc la grande industrie d'armement, qui lui a permis en fait de disposer de formidables moyens industriels et financiers pour se livrer à sa passion, la vente des armes.
Mmh. Vous soulignez d'ailleurs, Tristan, que Basil Zaharoff n'était pas vraiment un marchand d'armes au sens de, qu'on entend trafiquant d'armes. C'était un industriel, un entrepreneur en réalité. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de créer un véritable empire.
Oui, parce qu'il est probable, enfin on peut toujours refaire l'histoire, mais il est probable que s'il était resté un petit trafiquant d'armes, ou même un gros trafiquant d'armes, il n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu. Parce qu'il lui fallait quand même acheter des armes, il fallait les trouver. Je veux dire, vous ne trouvez pas des canons, des croiseurs, des avions et des mitrailleuses comme ça sur un catalogue. Donc il a effectivement joué, il a marié son caractère avec une logique d'entreprise, mais surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'il a poussé lui personnellement aux grandes concentrations industrielles. Vous voyez, c'est un homme qui sait tout de suite où est son intérêt, et son intérêt, il l'a vite compris, c'est un homme d'affaires, hein, fondamentalement. Donc en fait, il participe des mécanos industriels tout en appliquant ses méthodes de trafiquant d'armes, d'individus un peu interlopes qui à l'époque existaient encore. Donc c'est le mariage de ces deux caractères qui fait son formidable destin.
Vous écrivez, Tristan, dans votre biographie de Basil Zaharoff, l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes du monde, le pouvoir et l'argent qu'il rend possible et la respectabilité. Telles furent peut-être les deux seules motivations de cet homme. Une respectabilité qui faisait fi de la morale chez lui quand même.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je crois que son moteur principal, je me demande même si son moteur principal, ce n'était pas finalement la respectabilité et pas l'argent. On voit dans son parcours, vous savez, les décorations, le château, même le rocher de Monaco, cette espèce de délire de vouloir racheter le rocher de Monaco. Tout ça montre en fait un homme qui, venu probablement des bas-fonds, en tout cas qui était passé par les bas-fonds à un moment de sa vie, eh bien voulait se donner effectivement une mine respectable d'industriel, décoré, de grand bourgeois, etc. La morale, vous avez tout à fait raison, il en a fait totalement fi, mais au final, c'est un homme respectable et dont on peut même dire, c'est ça qui était amusant, que c'était un homme privé, si je puis dire, extrêmement charmant.
Alil, certains de nos auditeurs connaissent peut-être Basil Bazarov, le personnage de Tintin, directement inspiré de Basil Zaharoff. Est-ce qu'il est assez fidèle au personnage réel?
Oui, d'ailleurs, le nom, vous voyez, c'est quand même assez amusant. Voilà, Bazarov, Zaharoff, ça ne trompe personne. Et puis, vous avez une parfaite description du système Zaharoff dans la planche donc, de l'oreille cassée. Vous avez Bazarov qui dit « et 6 douzaines de canons avec 60 000 obus pour le gouvernement du San Theodoros », puis qui dit exactement la même chose après un petit coup d'avion dans le pays d'à côté. Même chose, donc 6 douzaines de canons et 60 000 obus pour le Nuevo Rico. Donc c'est tout à fait ça. Le personnage à l'époque était très célèbre et même l'apparence, hein, le Loden, la canne, la barbichette, enfin, pour quelqu'un des années 30, c'était une célébrité et on le reconnaissait immédiatement dans l'album d'Hergé.
Au fond, sa recette qui a très bien fonctionné, c'est qu'il jetait de l'huile sur le feu, il poussait les uns et les autres à s'armer, tout en leur vendant à crédit des armes dont ils avaient besoin pour... C'était vraiment la course aux armements qu'il activait lui-même. Il n'y a pas d'autres exemples dans l'histoire?
Alors, à ce point, non, parce qu'il faut dire aussi que, quelque part, si je puis dire, le contexte lui était favorable. Il entre dans le milieu de l'armement, enfin, à la fin des années 1870, et il en sort au début des années 30, enfin, disons, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, pendant toute cette période, le monde est en permanence en guerre. Il y a des guerres partout, hein, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe, bien sûr. Donc, il a un formidable contexte porteur, si je puis dire. Jeter de l'huile sur le feu, oui, il le fait aussi, on l'a pas dit, en achetant des journaux, en achetant des articles, en diffusant des faux témoignages. C'est l'époque, et là aussi le contexte le sert, où une partie de la presse est aux mains des grands intérêts industriels. Donc quelque part, il est aussi un homme de son époque. Maintenant, à cette échelle, des parcours comme ça, il n'y en a pas. On cite parfois, vous savez, Victor Bout, qui est un marchand d'armes, qui est russe, qui est emprisonné, je crois, aux États-Unis depuis maintenant 2012, si je ne me trompe pas. Mais Victor Bout n'a jamais eu, même si c'est un très grand marchand d'armes, il n'a jamais eu la célébrité, les honneurs, d'un Zaharoff. Il n'a pas de Légion d'honneur, il n'est pas couvert de médailles, il n'a pas de château dans l'Oise. Enfin, ce qui est extraordinaire avec Basil Zaharoff, c'est que c'est une crapule brillante, mais une crapule, mais un homme qui correspond aux besoins d'État qui sont partis effectivement à la course à l'armement et auquel il répond avec ses méthodes à lui. C'est ça sa chance, si je puis dire. Et son talent.
Un dernier mot quand même, Tristan Gaston-Breton, pour sauver Basile Zaharoff. C'est cette histoire d'amour. Il est capable.
Oh oui, sa duchesse.
Oui, la duchesse espagnole quand même.
On c'était en dit sincère,
un
mot. Ça,
c'était dites-nous. Sincère. C'est un grand romantique au fond.
Et oui, c'est une très belle histoire, bien que là aussi, on n'a jamais très bien su quels étaient les tenants et aboutissants. Vous savez, il y a toute une série de légendes qui courent, qu'il l'aurait rencontré dans un train, la malheureuse courait, s'est jetée dans ses bras, il lui dit « Sauvez-moi, mon mari veut me battre ». Donc il a aussi créé une espèce de légende romantique, mais la réalité est plus simple. Cette femme, la duchesse de Marchesa, était en fait l'épouse d'un grand d'Espagne. Le grand d'Espagne était un peu fou, mais il permettait à Basile Zaharoff d'avoir accès à des commandes d'armement en Espagne. Et puis la duchesse de Marchesa, qui était une jeune fille un peu mélancolique et romantique, avait besoin d'un protecteur pour échapper à cet homme un peu fou, et donc elle s'est entichée de Basile Zaharoff. Mais Basile Zaharoff, ayant des manières, et puis ne voulant surtout pas perdre les contrats espagnols, a attendu en fait 40 ans, soupirant en secret pendant 40 ans pour la duchesse, en attendant que son mari meure. Et il ne l'a épousée qu'à ce moment-là, c'est-à-dire en 1929. Donc c'est assez extraordinaire. Et entre-temps, il l'a bien sûr couvert de cadeaux. Donc c'était effectivement l'amour de sa vie. C'est probablement ce qui effectivement réhabilite le cœur de cet homme dont on pouvait douter qu'il existât.
Eh ben, merci beaucoup Tristan Gaston-Breton pour découvrir la destinée rocambolesque de Basile Zaharoff. Je renvoie nos auditeurs à votre livre, Basile Zaharoff, l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes du monde, paru aux éditions Talendier. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur l'histoire d'un bataillon de femmes qui a participé à la guerre de 14, mais à la différence de nos personnages du jour, elles n'étaient pas armées. C'est le destin fou de Florence Conrad et de son unité d'infirmières volontaires que vous nous racontez.
Oui, Stéphane, en réalité, celle qui a participé à la guerre de 14, c'est la fondatrice des Rochambelles, c'est Florence Conrad. C'était une richissime américaine et elle s'est retrouvée veuve très, très tôt, à l'âge de 28 ans. Et donc, elle s'est portée volontaire pour venir en Europe, pour venir en France et être infirmière volontaire pendant la guerre de 14. Déjà, c'est quand même une sacrée aventure, hein, d'aller prendre le bateau, de dire, il y a la guerre là-bas, il y a mes frères, mes cousins, toute la jeunesse américaine y va, j'y vais aussi. Et quand la Seconde Guerre éclate, elle vivait en France. Elle retourne aux États-Unis en 40 pour essayer de d'aider la France au moment où la France est envahie par les armées allemandes. Et elle va se consacrer à la création d'une unité de conductrices ambulancières composée de femmes qui devaient être parfaitement autonomes. Être parfaitement autonome quand vous êtes conductrice d'ambulance, ça veut dire évidemment déjà, c'est pas... Voilà, par exemple, David Castello-Lopez qui n'a pas son permis de conduire n'aurait pas pu être aux Chambelles, voilà, parce qu'il fallait...
Être une femme.
Oui, être une femme de... Oh, s'il avait voulu s'engager pour conduire une ambulance avec les Rochambelles, je pense pas qu'on lui aurait dit non. Mais il fallait être capable de réparer n'importe quelle panne sur un véhicule. Hein. Déjà,
quel soldat.
Vous savez, changer un pneu, je sais pas, moi je sais le faire, mais...
Stéphane, vous avez déjà changé un pneu.
Oui, ça m'est arrivé, oui.
C'est vrai.
Avec sorti
le cric.
Oui. Alors donc, changer un pneu, mais réparer la voiture, et puis maîtriser les premiers soins aux blessés, naturellement. Mmh. Et le tout en n'ayant pas froid aux yeux parce qu'elles ont été mobilisées en pleine zone de combat. Bon, donc c'était quand même des sacrées bonnes femmes. Mais alors, le nerf de la guerre, bien sûr, pour créer cette unité, c'est l'argent. Et Florence Conrad va mobiliser tout son entourage. Elle appartient à toutes sortes de sociétés philanthropiques et elle va collecter l'argent pour pouvoir acheter des ambulances. Elle va en acheter 19. Ce sont des Dodge flambant neufs. Et après, il lui faut déjà trouver une quinzaine. Elles seront 14 les premières. 14 femmes qui vivent à New York, hein, où est constituée cette unité, et qui acceptent de partir risquer leur vie en Europe. Alors, elle va les trouver. La plupart d'entre elles sont des Françaises qui vivent à New York, hein, et qui se décident à se lancer dans cette aventure périlleuse. Voilà, le groupe Rochambeau pour l'assistance aux blessés est né. Pourquoi Rochambeau? Là, je me tourne plutôt vers mon ami Mathieu. Vous savez qui était Rochambeau? Non,
c'est pour l'indépendance américaine.
Exactement, lieutenant général général des troupes françaises dans la guerre d'indépendance des États-Unis et montrer, donner ce nom à cette unité, c'est montrer que les Français des États-Unis, de même que les autrefois les troupes françaises étaient venues aux États-Unis aider les Américains à acquérir leur indépendance,
oui,
et bien cette fois,
voilà,
ce sont les Français des États-Unis qui vont aller délivrer la France. À l'automne 43, le groupe Rochambeau débarque à Casablanca. Personne ne l'attend. Hein, vous imaginez une unité féminine avec une riche américaine. Bon, personne ne l'attend. Et Florence Conrad, elle voudrait que son unité intègre la deuxième DB qui, à ce moment-là, stationne à Rabat. Alors, elle va à Alger. À Alger, elle rencontre le général Koenig, qui est le supérieur de Leclerc. Et elle lui dit, écoutez, voilà, moi, mon unité, je veux, c'est la deuxième DB. Il faut qu'on aille sur les zones de combat et de reconquête. Et la deuxième DB, surtout, a besoin d'ambulances supplémentaires. Alors, Koenig évoque l'idée auprès de Leclerc, et Leclerc pense que c'est une blague. Il dit, vous voulez rire? Vous ne croyez pas que je vais prendre des bonnes femmes dans mon unité? Lui, il veut bien les Dodge, les ambulances, c'est ok, mais pas les dames. Et comme Florence Conrad ne veut rien entendre, elle va tellement insister que Leclerc, mais vraiment de guerre lasse, accepte de regarder ce que donne son unité à l'exercice. Et il est tellement bluffé qu'il va finir par accepter cette unité Rochambeau. Les 14 femmes, elles seront rejointes bientôt par une vingtaine d'autres. Elles vont suivre un entraînement très sévère au sein de leur future division. Évidemment, on ne leur pardonne rien. Elles vont être observées, bizutées. Et d'ailleurs, on s'attend si peu à ce que des femmes soient intégrées dans l'armée qu'on leur donne exactement le même paquetage qu'à des hommes. Donc, une salopette bleue pour la mécanique, un treillis et des préservatifs. On n'a pas prévu qu'il y ait des dames. Vous savez, c'est comme Nicole Girard-Mangin, la seule femme médecin dans l'armée française en 14, elle n'avait pas d'uniforme, parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait des femmes médecins. Il y en avait chez les Anglais, il y en avait même chez les Américains, chez les Français, non. On a dû lui imaginer un uniforme rien que pour elle. Bon, finalement, les Rochambelles sont très vite adoptées par les hommes de la 2e DB. C'est eux qui les surnomment, les Rochambelles, justement. Et il y aura une unité du même type dans la marine. Elles s'appelleront les Marinettes. Et ces Rochambelles, en août 44, elles débarquent à Utah Beach, en Normandie, et certaines d'entre elles vont aller jusqu'à Honeydaigle d'Hitler, à Berchtesgaden. C'est vraiment une épopée. Et Florence Conrad, elle s'arrête à Paris après avoir cédé le commandement des Rochambelles à Suzanne Torres. Vous savez qui était Suzanne Torres? Encore une sacrée bonne femme, la future femme de Massu. Ça, c'est quand même un drôle de couple, hein. Massu et sa femme Rochambelle, ils ont vécu une guerre incroyable. Florence Conrad est décorée de la Croix de guerre 40-45 par le général Leclerc en personne. Elle est vraiment un exemple de ces femmes héroïques que l'histoire a complètement oubliées. Et Suzanne Conrad, elle est morte pas très âgée, d'ailleurs, elle est morte en 1966, mais la dernière de ces Rochambelles, Liliane Walter, elle est morte il y a à peine un an, elle est morte, enfin un peu plus d'un an, le 15 novembre 2020, à 95 ans. Belle et longue vie pour cette femme qui a 19 ans, elle a traversé la France et l'Espagne pour rejoindre les Rochambelles au Maroc, et elle a débarqué à Utah Beach la nuit du 4 au 5 août 44, par amour de son pays et de la liberté. Donc vraiment, mesdames les Rochambelles, eh bien, l'histoire n'a guère retenu votre nom, mais vous avez tout notre respect, surtout en cette période de l'année où on commémore tous les anniversaires liés au débarquement et la libération de l'Europe.
Merci beaucoup, Clémentine.
Merci beaucoup.
C'est un très bel hommage.
Très bel hommage, et hommage qui tombe bien, puisque une ambulance, nous en aurons besoin tout à l'heure pour évacuer Stéphane Bern à l'issue du quiz. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est l'heure du quiz, et en cette fin de saison, désormais, entre Stéphane et Clémentine, tous les coups sont permis, y compris scander des poèmes allemands pour déstabiliser psychologiquement l'adversaire.
Verreitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind.
Bon, c'est du Goethe.
Ne vous laissez pas distraire par ces manœuvres, Stéphane. Jouons à Bern Coubiel. En nous concentrant.
Il le connaissait aussi, en plus, là. Vous
c'est
me
vrai,
faites
il l'a repris,
passer pour
c'est
la...
C'est vrai, c'est vrai. Question numéro 1, Stéphane. Une question qui commence par le mot Hitler est toujours une bonne question. Hitler n'a jamais rencontré Franco physiquement. Vrai ou faux? C'est très simple comme question. Vous avez des questions vraiment faciles.
Il y a un piège, là. J'essaie d'avoir les photos.
N'oubliez pas qu'il y a une négation dans la question. Hitler n'a jamais rencontré Franco physiquement. Vrai ou faux?
Je ne me représente aucune image de cet événement.
Image.
C'est Mussolini, naturellement, qui l'a rencontré.
Oui, Mussolini, mais... Victor Emmanuel III.
Mais
parce que qui a rencontré Hitler? Mussolini,
oui.
Victor Emmanuel III,
oui.
La mère de Romy Schneider,
Pétain bien sûr,
Pétain,
à Montoire.
Il y en a un autre. Ils sont tous allés voir.
Le Wallis, Wallis.
Oui, Édouard VIII et Wallis Simpson. Et Franco, je crois qu'il y a une histoire comme quoi ils ne se sont jamais rencontrés.
Je pense que c'est plutôt ça. Personnellement, je répondrais non.
Ils ne se sont jamais rencontrés.
Parce que je pense que ça aurait été immortalisé et on aurait cette image en tête, non ? Vous ne croyez pas ?
Je n'ai pas cette image en tête.
En tout cas, c'est celle de Mussolini qui écrase celle de Franco. Mais bon.
Hitler n'a jamais rencontré Franco physiquement, vrai ou faux ?
Vrai.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu. Ils se sont vus une seule et unique fois. Le 23 octobre 1940, on a appelé cette confrontation l'entrevue d'Andaï, le but que l'Espagne vienne rejoindre l'axe Berlin-Tokyo-Rome. Finalement, la négociation n'aboutira pas, selon l'historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Robert Paxton.
Oui.
Hitler partira en disant « salaud de jésuite », en parlant de Franco. Je ne sais pas comment
c'est
on dit.
C'est étonnant. «
Salaud de jésuite » en allemand.
Cet événement important a été complètement...
C'est précisément parce qu'on n'a pas de photo qu'on ne s'en souvient pas. On pense qu'il ne l'a jamais rencontré.
Et en tout cas, c'est vrai que grâce à Franco, on peut le dire, beaucoup de gens ont pu fuir, grâce à la frontière espagnole, beaucoup de juifs notamment, et d'autres, des résistants, ont pu passer la frontière et aller
et
en
aller
Portugal,
rejoindre Londres par l'Espagne. Oui.
L'Espagne. On ne remercie jamais suffisamment Franco,
mais,
Stéphane.
Non, mais bon, voilà, c'est une guerre civile qui a coûté cher aux républicains et à plein de gens. Mais c'est vrai que pendant la guerre, il n'était pas très ami avec... avec Hitler.
C'est très juste. Néanmoins, c'est zéro point. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. En moins 4000 avant Jésus-Christ, c'est une invention décisive, l'invention de la bière. Elle est vraisemblablement née à l'extrême sud de la Mésopotamie antique. Son premier nom, Sicarou, ça voulait dire tête qui tourne. Vrai ou faux ?
Oh, c'est mignon. Est-ce que Sicarou est mésopotamien ? Je veux dire que mes connaissances linguistiques...
En tout cas, elle est née en Mésopotamie, ça c'est sûr.
Oui, parce qu'en Chine, on faisait plutôt de l'alcool de riz.
On faisait Mésopotamie.
Allez, serre-moi une Sicarou. Hein, Nata Wimpy Courmida. Courmida, ça c'est de belles blondes, serre-moi une bière en gaulois.
Oui.
Mais en Mésopotamien.
On s'éloigne de la Mésopotamie.
Allez, serre-moi une Sicarou, bien fraîche, sans faux col.
Que voulait dire Sicarou ? Parce qu'on disait Sicarou, ça c'est pas la question.
Vous allez voir que ça va être un truc cochon, Sicarou.
Est-ce que ça voulait dire tête qui tourne ?
Ah, je réponds oui, ça va vouloir dire un truc cochon.
Perdu.
Ça ne veut rien dire de cochon. Sicarou signifie. Pain liquide, et ça a beaucoup de sens. Elle était faite à partir de galettes de blé rouge et d'orge germée. On l'a parfumée avec des dattes et du miel. Il y avait dans la boisson des débris flottants, mais on s'en fout puisqu'on la buvait avec
mais
des pailles
roseaux. Mais alors c'est vrai ou pas ? J'ai dit c'est vrai.
Mais non, vous avez dit c'est vrai. Or, c'était faux. Ça ne signifiait pas la tête qui tourne, ça signifiait pain liquide.
Ah d'accord.
Et oui,
comment voulez-vous que je sache comment on dit bière en mésopotamien 4000 ans avant Jésus-Christ ? Oui, bon d'accord.
Stéphane Bern, vous aimez Thomas Pesquet, Stéphane ?
J'adore Thomas Pesquet.
Moi je l'aime et je ne suis pas du genre jaloux de toutes ses qualités, surtout d'une qualité que je n'ai pas et que je n'aurai jamais, l'humilité. On le sait peu, mais lors du voyage spatial pour se rendre la première fois à bord de l'ISS, lui et ses collègues ont battu le record du vol le plus éloigné de la Terre de toute l'histoire spatiale. Vrai ou faux ? Vol habité, bien sûr.
Vrai.
Non mais du vol, la Lune n'est plus... Là, eux, ils sont... Mais Stéphane, ils sont en orbite autour de la Terre.
Oui.
Donc ils sont à quelques centaines de kilomètres de la Terre. C'est pas le vol spatial le plus éloigné, puisque le plus éloigné, c'est la Lune, par définition. Vol habité.
Il n'est pas allé sur la Lune.
Stéphane, spécialiste de l'aventure spatiale.
Elle a raison, je n'avais pas compris la question.
Vous avez répondu vrai.
Vraiment, je suis désolé pour vous. Encore perdu.
Je n'avais pas compris la question.
Vous n'avez pas compris la question.
Non,
mais oui,
en fait, j'ai compris que ça durait le plus longtemps, en fait.
Non, c'était la distance que je vous demandais. Non, c'est faux. Bien joué, Clémentine.
J'ai pas bien écouté, oui.
L'ISS est en orbite autour de la Terre à environ 408 km.
C'est rien, c'est ridicule. Voilà. Il est juste là à côté,
Le record...
Vous savez quoi ? C'est comme à l'école, j'écoutais pas les questions. Et alors forcément, je répondais à côté.
Ça vous a pas trop mal réussi. Le record, c'est 400 171 km. C'est l'équipage d'Apollo. Est-ce que vous pouvez deviner ? Parce que moi, j'aurais peut-être pu deviner. Alors, si moi, je peux deviner, vous aussi. Quelle mission Apollo s'est éloignée le plus de la Terre ?
11, 12 ou 13.
Un autre indice, s'ils sont éloignés tant que ça, et que ça a fait un record, c'était pas volontaire. Houston,
c'est pas Apollo 11. Ah non, c'est Apollo 13. 13.
Apollo 13, ah, bonne
dit.
Réponse non, de Clément
Vigneault. Oui, j'avais dit. Ah oui, j'avais
alors,
dit.
Pas de points supplémentaires. Ah, en tout cas, dit, c'est cette mission Apollo 13 où c'est parti un petit peu en sucette. Ouais, ils ont été obligés de s'éloigner, prendre une autre trajectoire, d'où leur record. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Un rappel des scores. 0-0, c'est une belle partie. Je ne sais pas si vous êtes férue d'art, Clémentine, mais parlons funk. C'est à la fin des années 60 que le mot funk, funk, naît. Et on le doit à René Funk, un Français habitant à San Francisco qui a beaucoup fait pour la popularité du genre. Vrai ou faux?
René Funk.
René Funk.
La funk music, c'est René Funk.
C'est la question que je vous pose.
Si c'est vrai, c'est vraiment chouette comme idée.
Parce qu'il faudrait lui rendre hommage.
Oui.
Quoi.
Non, je crois pas.
Moi, je pense que c'est faux. Mais
non,
bon,
c'est faux. Moi, je dis c'est faux.
Vous
c'est
dites
faux.
Que c'est faux.
Vous avez gagné.
Et c'est une bonne réponse qui vous permet de remporter le quiz.
Bravo,
Clémentine. Bravo, une belle victoire. Non, René Funk a existé. Il était considéré comme le meilleur pilote de l'aviation française durant la Première Guerre mondiale. Il a le record, 75 duels aériens remportés avec témoins oculaires.
Magnifique.
Mais comme en 40, il est resté fidèle au maréchal Pétain. Moins magnifique. L'histoire n'a pas retenu son nom.
Et d'où vient le mot funk alors?
D'où vient le mot funk? Eh bien ça, je vous l'expliquerai demain. Bravo Clémentine.
<rire> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission d'histoire pas comme les autres. Avec un garçon, il faut dire également pas comme les autres. Oh, vous vous régalez, Mathieu.
Comme chaque après-midi que j'ai la chance cette saison de passer en votre compagnie, Stéphane, ça me change de l'hôpital de jour.
Oh, bah, ravi que ça vous plaise, hein. Même si aujourd'hui, il vaut mieux se montrer prudent.
Hein?
Nos trois personnages sont de sacrés loustiques. Olivier, Mathieu.
Mais qu'est-ce que vous faites, Stéphane? Vous n'avez même pas de pistolet, vous me braquez avec votre bic quatre couleurs, ça n'a pas de sens.
Certes, mais nos personnages, eux, étaient lourdement armés. Après Basil Zaroff, l'un des plus grands marchands d'armes, je vous présente l'un des plus grands créateurs d'armes dans l'histoire, qui a inventé un nouveau revolver qui a depuis gardé son nom, Samuel Colt. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un robot qui aime bien défourailler à tout va, hein, c'est ça?
La formulation est belle, Stéphane.
Oui.
Et c'est vrai, le personnage culte de Terminator n'est pas connu pour sa poésie ou son côté contemplatif. C'est un tueur né tout l'inverse de celui qui l'incarne, Arnold Schwarzenegger, l'ex-monsieur univers devenu star de cinéma puis gouverneur républicain de Californie, portrait du meilleur ennemi de Donald Trump, ex-Terminator qui aujourd'hui milite pour le contrôle des armes, justement.
Eux ne sont armés que de leur cerveau. Bon, c'est déjà pas mal parce qu'il est bien rempli.
Il risque pas de faire mal à qui que ce soit avec ça.
David Castello-Lopez qui remonte aux origines et qui nous raconte aujourd'hui les origines du stéthoscope.
Du stéthoscope.
Vous trouvez si sexy, Mathieu.
Là, c'est un accessoire coquin.
Non? Oui, oui, c'est un petit peu coquin. Oui,
entre autres, oui.
Comment ça? Enfin, n'importe quel accessoire. Parce que c'est.
Vous n'avez pas de vie intime rigolote, vous, Olivier. Vous ne faites jamais de jeu de rôle.
Pas avec un stéthoscope.
Non, mais c'est jouer au docteur.
Oui,
donc les origines du stéthoscope, tout à fait.
Oui.
Et justement, de quoi on va parler, Olivier Poulsol? Vous aviez un petit trou de mémoire. Est-ce que vous vous souvenez de votre recette du jour aujourd'hui?
Alors, en plus, je raconterai une anecdote tout à fait passionnante sur mon enfance avec cette recette. Le saumon en Bellevue, c'est un plat qui a un peu disparu des radars et qu'on ne trouve plus, je pense, que chez certains traiteurs un peu old school. Mais quand c'est bien fait, c'est quand même vraiment bon.
Vous nous révélerez l'histoire de ce plat. J'espère que d'ici là, vous n'allez pas vous casser la margoulette dans les escaliers d'Europe 1. Mais Stéphane, d'où vient cette expression? L'expression favorite des jeunes, se casser la margoulette.
Oui, maintenant on dit on se vautre la face. À l'époque, on se cassait la margoulette.
C'était
jamais joli. Entendu parler de cette expression.
C'est vrai? Parce que vous n'êtes pas français pour de bon.
Oui, mais je vais vous dire d'où ça vient.
Et tout de suite, partons à la rencontre de celui qui a inventé le revolver. Stéphane Bern nous raconte Samuel Colt.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Far West. Une ville au sud de la frontière américano-mexicaine, San Miguel. Un étranger vêtu d'un poncho vert débarque dans le bourg à dos de mulet. Il y a du vent, il y a de la poussière, il n'y a pas l'air commode. C'est alors que trois hommes s'amusent à tirer dans les pattes de sa monture. L'homme a d'un coup l'air encore moins commode.
Le mulet est délicat et il s'est offensé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il exige des excuses.
Vous l'avez reconnu sans le savoir. Non, je ne parle pas de Clint Eastwood, mais du son de son Colt 1851 Navy. Une arme à barillet mythique qui apparaît dans de nombreux westerns spaghetti. Aux mains de Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, dont nous venons d'entendre un extrait, ou dans Le bon, la brute et le truand, ou dans les mains de Mario Girotti alias Terence Hill dans Mon nom est personne, ou encore On l'appelle Trinita, le Colt. Plus qu'une arme, c'est un symbole de l'Amérique, de sa conquête du Far West, de ses cow-boys bourrus et sans peur. Tout cela grâce au flair d'un seul homme bien décidé à armer l'Amérique, le colonel Samuel Colt, inventeur du célèbre revolver, grand industriel, marketeur de génie, mais pour le coup, pas colonel pour un sou.
Ah tiens.
Colt s'est inventé un titre, mais n'a jamais mis les pieds sur un champ de bataille, pour forger autour de son nom, de sa marque et de ses produits une légende, et ça a marché. Le colonel Samuel Colt, donc, est un self-made man, en somme, comme l'Amérique en raffole, mais dont la vie n'a pas toujours été rose, ni reluisante d'ailleurs. Son enfance d'abord est globalement malheureuse. Samuel naît le 19 juillet 1814 à Hartford, dans le Connecticut, sur la côte est des États-Unis. Sa mère, Sarah Colt, est une riche héritière de Hartford, mais elle meurt alors qu'il n'a que 7 ans. Fini l'enfance dorée. Son père, lui, est d'origine plus modeste, et sa belle famille n'a vraiment pas l'intention de l'aider. Le jeune Samuel Colt s'habitue donc aux tâches pénibles. Il travaille à la ferme, puis à l'usine. Très jeune déjà, il est fasciné par les inventeurs, par ceux ayant accompli quelque chose que les autres pensaient impossible. Alors, il veut faire pareil. Et puisqu'il s'intéresse aux armes, il a jeté son dévolu sur une idée, celle d'un pistolet capable de tirer plusieurs coups sans être rechargé. L'idée fait son chemin, jusqu'à ce qu'en 1830, selon la petite histoire, il ait une révélation. À bord d'un navire de commerce sur lequel il vient de s'engager. Il a 16 ans et la roue du bateau sur lequel il voyage, que l'on peut bloquer avec un système de taquet, lui inspire une idée. Celle d'un pistolet à barillet, ce qu'on appellera bientôt un revolver. Cette histoire est-elle vraie ? Peut-être. Mais Colt n'a pas inventé l'idée du cylindre rotatif, revolving en anglais, d'où le mot revolver. Il n'a jamais prétendu d'ailleurs. De fait, les Anglais utilisaient déjà à l'époque, et ce depuis quelques années, une arme à feu relativement semblable. Un revolver à silex inventé par un certain Elisha Collier et breveté en 1818. S'en est-il inspiré ? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il en a amélioré le principe. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'invention en elle-même qui le rendra riche. D'ailleurs, son prototype ne convainc pas. Pas tout de suite en tout cas. Mais Colt est déterminé. Les échecs ne lui font pas peur, et tant mieux, car il en essuiera beaucoup durant 15 ans, de 1831 à 1846, de ses 17 ans jusqu'à ses 32 ans. Sa première usine, ouverte en 1836, la Patton's Arms Manufacturing Company, fait faillite 5 ans après sa création. À la même époque, alors qu'il présente son revolver aux autorités militaires, espérant ainsi décrocher des contrats publics, son prototype explose.
Aïe.
Bon, vous imaginez l'humiliation. Mais ça ne le décourage pas. Au contraire même, Colt se diversifie. Il se tourne vers les explosifs et conçoit un système de mines et de batteries sous-marines. Si la Navy semble cette fois mordre à l'hameçon, l'affaire ne se fait pas. Mais cette série de malchance est sur le point de prendre fin. Nous sommes maintenant en 1846. Sans le savoir, Colt a ferré un gros poisson. Un Texas Ranger du nom de Samuel Walker. Ce héros de guerre, qui a ses entrées au gouvernement, a vu les premiers revolvers de Colt en action. Les trouvant prometteurs, il veut en commander pour équiper ses Rangers, à condition d'y apporter quelques améliorations. Le deal se fait. Colt décroche une très grosse commande pour son nouveau revolver, le Colt Walker. La machine est lancée. En 1847, à Hartford, sa ville natale, il recrée une manufacture. Cette fois-ci, l'entreprise prospère. Les modèles de revolvers qu'elle produit deviennent peu à peu si populaires que les Américains ne disent plus revolver, mais Colt. Les contrats s'enchaînent, les modèles iconiques aussi. Le Dragoon, le Baby Dragoon ou encore le 1851 Navy, le fameux. Celui de Clint Eastwood et de Terence Hill, appelé Navy, certes, mais connu pour avoir été utilisé par l'armée de terre américaine. Puis, c'est la guerre de sécession, les commandes affluent. Colt est le principal fournisseur des nordistes, mais il vend aussi ses armes aux États confédérés du Sud. Entre-temps, Colt est devenu le colonel Colt. Il s'est forgé une image de marque. Il a compris, comme je vous le disais, que pour vendre son produit, il fallait s'inventer une histoire, lui insuffler toute une symbolique. Le Colt, c'est l'Amérique. Le Colt, c'est le Far West. C'est l'idée qu'il veut véhiculer auprès du public. Samuel Colt y parvient notamment à grand renfort de publicité, d'encarts dans les journaux, dans lesquels on peut notamment apercevoir le célèbre chasseur de bisons, Buffalo Bill, qui a accepté de poser pour une poignée de dollars avec l'un de ses revolvers. Ce revolver nouvelle génération séduit tout le monde, jusque dans les plus hautes fonctions. Abraham Lincoln lui-même fait cadeau de Colt aux chefs d'État qui viennent lui rendre visite. 15 ans après leur ouverture, les usines Colt sont devenues un véritable complexe industriel, Coltville comme on l'appelle. Désormais, tant l'entreprise s'étend sur un large territoire. Samuel Colt est immensément riche et respecté. Sur le plan personnel aussi, il est comblé. En 1856, il s'est marié avec Elizabeth Hart, une jeune femme de 13 ans, sa cadette. Il la gâte sans retenue, lui fait construire une villa gigantesque et extraordinaire dans les beaux quartiers de Hartford, là où il avait vécu avant la mort de sa mère. Une belle revanche sociale sur la vie. Malheureusement pour lui, il n'en profitera pas longtemps, puisqu'il meurt subitement quelques années après, en 1862, des suites de la goutte.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Samuel Colt, nous sommes avec le politologue Didier Combeau. Bonjour Didier.
Bonjour.
Bonjour Didier Combeau, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. On vous doit l'ouvrage de référence des Américains et des armes à feu, violence et démocratie aux États-Unis, publié chez Belin, mais aussi plus récemment, Être Américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle, paru chez Gallimard. Le Colt, au fond, c'est plus qu'une arme. C'est un symbole de l'Amérique, justement, et même, a fortiori, de ce que c'est que d'être américain, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, les armes individuelles occupent une place toute particulière dans l'imaginaire collectif américain. Ce sont les armes qui ont permis de se protéger d'une nature parfois hostile, de lutter contre les Indiens, d'obtenir l'indépendance, et puis finalement de conquérir le continent. Mais les armes ont aussi une dimension politique. Hein. La déclaration d'indépendance dit que les hommes sont créés égaux. Les armes, eh bien, c'est ce qui permet de mettre en œuvre cette égalité. Et d'ailleurs, les amateurs d'armes aux États-Unis aiment à répéter un slogan qui est que Dieu a créé les hommes et que Samuel Colt les a rendus égaux. Donc les armes sont en quelque sorte les grandes égalisatrices.
Intéressant un point de vue. Quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est... Pour nous, Français, c'est un peu choquant, mais il y a du sens presque là-dedans de mettre tout le monde à égalité par les armes, les petits et les grands. C'est étonnant. Ce qui est fou, c'est que le parcours de son inventeur Samuel Colt, c'est ce type parti de rien et qui va faire faillite avant de créer un empire. C'est vraiment la trajectoire qui fait rêver aux États-Unis, celle du self-made man, avec un échec d'abord pour avoir vraiment un peu de rebondissement et la réussite après. C'est le prototype de ça.
Oui, effectivement, il est parti de pas grand-chose. Il n'est pas parti tout à fait de rien, hein, parce que son père était déjà un commerçant bien établi. Alors, il a connu des échecs, hein, il a fait faillite, mais il s'est toujours relevé. Et puis, c'est un entrepreneur, il s'est pas intéressé seulement aux armes à feu, il s'est intéressé aussi au télégraphe. Il a travaillé avec Samuel Morse sur le télégraphe. Il s'est intéressé aux mines sous-marines. Ça a pas marché, mais à chaque fois, il se relève. Et puis, finalement, lorsqu'il meurt, hein, il a seulement 47 ans, sa vie est assez courte. C'est un des hommes les plus riches des États-Unis. Et effectivement, il a fondé non seulement une usine qui emploie à peu près 1500 personnes, mais il a même fondé une ville autour de cette usine pour loger ses ouvriers.
Remettons l'invention du Colt, l'objet, dans le contexte de l'époque. Au fond, le contexte était favorable parce qu'on était en pleine période d'expansion. Puis après, il y a eu la guerre de sécession. Enfin, ça a été une période bénie pour diffuser son Colt.
Oui, c'est la période où les États-Unis s'inventent une destinée manifeste qui est la conquête de l'ensemble du territoire que l'on connaît maintenant des États-Unis, la conquête de l'Ouest. C'est la période où le Texas obtient son indépendance par une guerre du Mexique et le génocide indien, bien naturellement. Puis c'est aussi une période de grands progrès techniques. Hein. Et puis enfin, c'est la guerre de sécession qui va prodigieusement avancer les affaires de Colt, qui vont d'abord aux sudistes et puis ensuite aux nordistes. Et donc la période est effectivement extrêmement favorable.
Alors plongeons-nous justement dans cette période de manière très concrète. Avec Stéphane, on est deux cow-boys, comme ça, on n'a pas de permis d'armes et tout ça. On a le droit d'acheter un Colt, n'importe qui peut s'en procurer un, ça coûte combien ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est pas très cher. Hein. Après la guerre de sécession, un Colt, c'est environ 17 dollars. 17 dollars, ça représente aujourd'hui environ 350 euros, 400 euros. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable. Et donc, effectivement, ça n'est pas difficile de s'en procurer.
J'ai lu que les premiers Colts n'étaient pas dotés de cartouches.
Non, les cartouches n'existent pas hein, au moment où Colt met au point son revolver. Alors, il se charge par l'avant du barillet, on met la poudre. Oui. Et puis, on enfonce la balle en force. Ah, et à l'arrière du barillet, on met une amorce.
Ah oui, c'est un peu
alors, c'est toute une opération hein, de charger le barillet. C'est pour ça d'ailleurs que les premiers Colt que vend Colt comportent un barillet supplémentaire. Comme ça, on peut changer le barillet plutôt que de recharger l'arme.
Donc, c'était très facile de se servir d'un Colt, en fait.
Très facile, il fallait savoir faire cette opération, quand même.
Enfin, c'était beaucoup plus facile. Ça permettait surtout d'avoir une arme à répétition. Les premiers Colt avaient 5 coups, alors que auparavant, les Américains qui faisaient face aux Indiens des plaines qui maîtrisaient le cheval, hein, qui étaient des cavaliers, ils avaient 2 pistolets à un coup à la ceinture et puis une carabine à un coup. Donc, ils pouvaient tirer 3 balles. Mmh. Alors que les Indiens avaient des arcs et des flèches et un carquois et pouvaient décrocher bien plus de flèches que les Américains ne pouvaient tirer. Donc les Américains étaient très désavantagés. Mmh. Les armes de Colt ont permis aux Américains, ils avaient 2 pistolets à 5 coups, donc ils avaient 10 balles à leur disposition.
Ce qui est triste, c'est qu'au fond, il n'a pas vécu très longtemps pour profiter de son invention. Hein. Et pour autant, le Colt est très présent au cinéma. Mais est-ce qu'on le voit dans la vie quotidienne des Américains? Puisque, on le sait, les Américains sont nombreux à être armés.
Colt, donc, est mort en 1862, mais son entreprise a continué d'être florissante, y compris au XXe siècle, avec la production d'armes nouvelles. Par exemple, Colt 1911, qui est le pistolet semi-automatique standard, en quelque sorte, a été inventé par la firme Colt. La firme Colt a aussi inventé l'AR-16. L'AR-16, qui est une arme automatique militaire, il existe une version civile qui est l'AR-15. Et c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les armes d'assaut. Et ces armes sont fréquemment utilisées dans les fusillades. Et donc, ces armes Colt sont encore très très présentes aux États-Unis. Mais tout récemment, l'entreprise Colt vient d'être rachetée par une entreprise tchèque. Donc, Colt n'est plus une marque américaine.
Ah, c'est plus américain. Juste une question de politique. Vous pensez qu'un jour, le port d'armes sera plus contraint aux États-Unis? Parce que là, il s'agit de changer la Constitution, je crois que
il faut changer
l'accès aux armes, c'est l'amendement numéro 2, c'est ça?
Alors, effectivement, l'accès aux armes à feu est protégé, l'accès des citoyens aux armes à feu est protégé par le second amendement à la Constitution, et cela a été validé par la Cour suprême en 2008. Donc, ce sera très difficile de les réglementer.
C'est difficile maintenant de revenir en arrière.
C'est très difficile, d'autant plus que la Cour suprême, depuis le mandat de Donald Trump, est très conservatrice, hein, puisqu'il a nommé 3 juges conservateurs sur les 9. Et donc, il y a peu de chances qu'elle revienne sur cette décision qui est que le second amendement protège bien le droit à avoir des armes.
Merci beaucoup, Didier Combeau, d'avoir ressuscité Samuel Colt et une part de l'Amérique avec nous. Je rappelle, votre livre « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle » paru chez Gallimard.
Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui étaient armés. Après Basil Zaharov et Samuel Colt, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'un personnage plus contemporain dont la réplique la plus célèbre n'était pas « Haut les mains !»
Non, Stéphane, sa réplique la plus célèbre, c'est
« Hasta la vista, baby !»
Hasta la vista, baby. Cet après-midi, je vous raconte le destin d'un homme qui est l'un des derniers symboles vivants du rêve américain. Arnold Schwarzenegger, fils de paysan autrichien, devenu un des acteurs les mieux payés au monde, jusqu'à 20 millions de dollars.
Par mois ?
Non, par film, Stéphane, c'est déjà pas mal, vous êtes vraiment complètement déconnecté, vous. Et ce rêve américain, devenu réalité, c'est encore Arnold Schwarzenegger lui-même qui en parle le mieux.
There were times where people said it can never be done, that an Austrian farm boy can come over to America and get into the movie business and be successful in the movie business. They said we cannot pronounce your name, you cannot speak English well. And your body's overdeveloped. And you know what happened? I became the highest paid entertainer in the world.
Et bam, dans vos dents, en gros. Donc, je vous résume. On disait que c'était impossible pour un petit Autrichien, fils de paysan, de réussir aux États-Unis. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis l'acteur le mieux payé au monde. C'était au sommet de sa gloire dans les années 90. Il était certainement le mieux payé de tous les temps. Si on se penche sur le ratio cachet nombre de mots prononcés par film. Dans Terminator, le rôle qui fera de lui une star mondiale, Arnold n'a que 17 phrases de dialogue. Dans Terminator 2, il prononce 700 mots, 62 phrases, dont la cultissime.
T'aimes bien les omelettes?
Tiens, je te casse les œufs.
Passe pas. Au Figaro, visiblement, ils ont des stagiaires à occuper. Ils ont recensé, dans toute sa filmographie, Arnold aurait à son actif 509 personnages tués, dont 278 par arme à feu, 91 dans des explosions, 60 par arme blanche et 2 par étranglement. Vous l'aurez deviné, Arnold Schwarzenegger n'a jamais joué devant la caméra de François Ozon, ce qui ne l'a pas empêché d'être classé 3 années consécutives parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde selon le Times. Tout commence pourtant très loin d'Hollywood, donc le 30 juillet 1947, dans le petit village de Thal, en Autriche. Ce pays qui nous a donné Sigmund Freud, Stefan Zweig, Gustav Klimt et le Yodel. Arnold grandit dans un contexte politique et aussi, on l'oublie aussi. Arnold grandit dans un contexte politique et familial, disons, délicat. En effet, pendant la guerre, on va dire pudiquement que papa Schwarzenegger n'a pas manifesté une grande hostilité à l'égard du régime nazi. Il avait même pris sa carte au parti et avait adhéré aussi à sa branche paramilitaire, la sympathique Sturmabteilung. Au sortir de la guerre, Gustav tente de repartir du bon pied en déclarant à ses enfants «
Il ne faut pas avoir honte d'être gay !»
Mais voilà, l'ambiance à la maison n'est pas franchement rieuse, surtout que les nazis n'étant pas réputés pour leur psychologie, Gustav ne cache pas à Arnold qu'il lui préfère son frère Meinhard, plus viril, moins efféminé. Oui Stéphane, ce sont bien là les termes qu'employait Gustav au sujet d'Arnold Schwarzenegger jeune. « Mon père n'avait aucune patience pour écouter et comprendre mes problèmes. Il y avait comme un mur entre nous. Est-ce à dire que nazisme et parentalité sereine ne font pas bon ménage ? Ne jugeons pas. Mais oui, Arnold le racontera plus tard, son père Gustave le battait. Nazi, violent, alcoolique, à toutes ses qualités, le père Schwarzenegger en ajoute une quatrième, la pauvreté. Arnold se souvient que le plus grand événement de sa jeunesse, c'est quand sa famille s'est fait livrer un réfrigérateur. Cependant, malgré ce contexte familial difficile, Arnold reste un enfant enjoué, un enfant qui rêve de gloire, même s'il ne sait pas encore très bien dans quel domaine. Il rêve de devenir champion. De quoi ? Peu importe. Il s'essaie à différents sports et découvre à l'âge de 13 ans le seul qui n'en est pas vraiment un, le culturisme. Son trait de caractère principal, l'obstination, correspond parfaitement à cette discipline qui consiste à soulever de la fonte toute la journée. Arnold se lance dès l'âge de 15 ans dans une quête obsessionnelle de la perfection où chaque muscle doit être développé au maximum et toujours dans une complète harmonie. Étonnamment, pour atteindre ses objectifs, Arnold ne mise pas, comme moi, sur une de ces ceintures d'électrodes que Laurent Cabrol présentait dans le télé-shopping. Il préfère de loin les stéroïdes, comme il le confessera bien des années plus tard. Très vite, le jeune Autrichien présente une musculature assez effarante, avec notamment des biceps qui semblent vouloir s'échapper des bras tellement ils sont gros. En 65, il remporte le championnat autrichien junior de soulevé de poids. En 67, c'est la consécration. Il remporte le premier de ses 6 titres de Monsieur Univers et décide de s'embarquer pour les États-Unis. Alors, on connaît tous peu ou prou l'histoire d'Arnold Schwarzenegger, si bien qu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne de dire « Après son titre de Monsieur Univers, il décide de devenir acteur à Hollywood ». Mais si on s'arrête une seconde sur cette phrase, elle est invraisemblable, Stéphane. Elle est presque grotesque. Dire qu'on envisage de percer à Hollywood sous prétexte qu'on a gagné un concours de culturisme, c'est comme espérer entrer à la Comédie Française sous prétexte qu'on a joué dans Meurtre en Lorraine. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir.
Ouais, je suis d'accord.
Comment Arnold peut-il y croire ? Eh bien, il y croit et il va réussir. En 69, il décroche son premier rôle au cinéma dans Hercule à New York. Problème, son anglais est encore relativement en chantier. Après avoir visionné la première version du montage, le réalisateur décidera tout bonnement qu'il vaut mieux qu'il soit doublé. C'est en 1982 qu'Arnold connaît son premier succès avec Conan le Barbare. Séduit par sa présence à l'écran, Eric Rohmer lui fait envoyer des fleurs et lui propose de collaborer à son prochain film, mais Arnold préfère le projet de James Cameron, dont le propos lui parle plus. Terminator, un film dont James Cameron a eu l'idée en se réveillant d'un terrible cauchemar où il était traqué par un robot tueur envoyé du futur pour le tuer. Moi hier j'ai rêvé qu'on faisait une moussaka géante chez Pouls et que David arrivait en camion qui faisait bip bip. Je me dis depuis, peut-être que j'exploite pas assez mes rêves, peut-être que je tiens un truc moi aussi. Bref, Cameron lui se réveille, note son cauchemar, qui deviendra Terminator, un des plus gros succès cinématographiques de tous les temps. Fun fact, savez-vous qui aurait normalement dû incarner Terminator ?
Lynn Renault.
Non ! O.J. Simpson. O.J. Simpson, bon après O.J. a eu 2-3 pépins avec la justice, ça s'est pas fait, Arnold lui était dispo, et c'est comme ça qu'il est devenu une superstar mondiale. Le film a marqué toute une génération, qui, au bureau, n'a jamais lancé un petit « I'll be back » dans l'open space au moment d'aller aux toilettes. Ah, l'humour d'entreprise. Le succès est immense, Arnold devient l'acteur le mieux payé d'Hollywood, on l'a dit, et comme c'était prévisible, il tombe dans les travers du showbiz. Il perd un peu de cette niaque qui faisait sa marque de fabrique, s'entraîne moins, bosse moins ses rôles, commence à manger des danettes caramel, vous voyez la pente. Bref, il plonge dans ce redoutable engrenage fric-succès-succès-fric qui fait que vous perdez peu à peu le goût de l'effort et qu'un beau jour, votre seule préoccupation en vous levant le matin, c'est...
Quand est-ce que j'irai la mamounia ?
Malgré encore quelques beaux scores au box-office avec Total Recall et True Lies, au tournant du millénaire, Schwarzy estime qu'il est temps pour lui de se fixer un nouveau défi, en politique cette fois. Lui qui a épousé la nièce de Kennedy, il se lance dans la course au poste de gouverneur de Californie sous la bannière républicaine. Bonjour les engueulades à la maison. Même s'il y en aura d'autres, sachant que quelques années plus tard, sa femme apprendra qu'il a eu un enfant caché avec la bonne. Enfin, au moins, lui, il a eu le courage d'avouer.
Contrairement à certains ici.
Non, on avait dit qu'on arrêtait de charrier David. En 2003, un peu à la surprise générale, Arnold est élu gouverneur de l'État de Californie, sera même réélu en 2006, deux mandats durant lesquels notre Terminator révèle une toute autre facette de sa personnalité, son goût pour l'écologie. Aux antipodes des personnages guerriers qu'il a l'habitude d'incarner, Arnold veut désormais se battre, oui, mais pour la Terre, pour les générations futures. Sa nouvelle mission ?
This is the challenge of our time.
C'est l'enjeu de notre
this
époque.
Is why I am on a crusade to reverse this trend.
C'est pour ça que je suis en croisade pour renverser les choses.
And to terminate climate change once and for all.
Et je vais en finir avec le changement climatique once and for all, une fois pour toutes. Bon, ça n'a pas marché, mais il a essayé. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup de tendresse pour Arnold Schwarzenegger,
oui,
qui aura vraiment eu un destin inouï, dont la clé, s'il fallait en retenir une, est la suivante, sa devise. Always stay hungry. Ne jamais cesser d'avoir faim. Continuer d'avoir des projets, des défis, ne pas compter ses heures. Un peu comme nous, Stéphane, hein, en témoigne ce petit dialogue saisi sur le vif hors antenne hier alors que les vacances approchent.
Et on revient en septembre ou pas ?
On revient en août, Stéphane.
Mais ouais, mais quand on...
Le 23, ben le 24, non ?
C'est un peu tôt. Hein.
J'en connais qui sont pas prêts d'être gouverneur de Californie, moi.
Merci Mathieu.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Stéphane Bern est-il en bonne santé ? C'est la question à laquelle nous allons répondre à l'issue de cette chronique, David, puisque vous avez apporté aujourd'hui un stéthoscope, c'est l'objet dont vous nous racontez l'histoire.
Tout à fait. Moi, je vais pas souvent chez le médecin, ça viendra sans doute, mais pour l'instant, je vais pas trop. Mais quand j'y vais, j'ai peur du stéthoscope, parce que le médecin, il fait toujours cette tête professionnelle de circonstance, avec les sourcils un peu froncés quand il vous auscule, vous savez. Et moi, j'essaie de deviner ce qu'il pense, et je me dis, est-ce que les sourcils froncés, ça veut dire que j'ai le cancer ? Et je dis, probablement. Et ça fait peur. Mais quand même, l'objet stéthoscope en lui-même, il est assez marrant. C'est comme, en fait, des écouteurs, mais qui permettent d'écouter un seul truc nul, qui est votre cœur. Alors déjà, est-ce que vous qui connaissez parfaitement le grec ancien, est-ce que vous pouvez me dire l'étymologie du mot stéthoscope ?
Moi, stéthos, le cœur.
Non.
Pas du tout.
Écoute.
Bien joué, Olivier.
Ni l'un ni l'autre. Hein, ni l'un ni l'autre.
Stétho.
Stéthos.
Stéthos, ouais, c'est le... La poitrine,
non, le... La poitrine.
Ah non, la poitrine.
Oui. La poitrine,
vous voyez, j'ai
tout
l'air
à fait.
Comme ça, ouais. Et sans regarder vous sur Google, j'ai l'air d'un imbécile, non, et pourtant, je sais vous dire...
Escope, voilà, escope, tout simplement.
Bah, scopa, observation,
regarder. Et donc, c'est...
Regarder.
C'est l'appareil qui permet de regarder la poitrine, même si c'est une observation figurée,
de
bien sûr, puisque l'idée, c'est...
en quelque sorte.
L'idée, c'est de voir avec les oreilles. Alors, avant l'invention du stéthoscope, les médecins, ils écoutaient déjà le cœur des patients, parce qu'ils s'étaient rendu compte que le cœur, comme c'était important pour tout ce qui était vivre, mais ils l'écoutaient simplement en collant leur oreille sur la poitrine des gens. Et puis est intervenu un monsieur qui s'appelait René Théophile Hyacinthe Laennec. Laennec,
oui,
vous connaissez son nom.
Qui a laissé son nom à un hôpital.
Un hôpital qui, est maintenant, c'est des trucs à 25 000 euros le mètre carré.
Ah oui, si vous
vraiment voulez. Oui, oui. Bon, mais c'est sympa, on va m'habiter là.
Donc, dit monsieur... l'hôpital américain, pas moins cher.
Laennec, la blague d'hôpital. Laennec, comme son nom l'indique, il était breton. Et comme son nom l'indique moins, il était médecin. Et l'histoire est racontée généralement de cette façon. Un jour, en 1816, Laennec, il marchait dans le quartier du Louvre à Paris. Et il a vu deux enfants jouer avec un long bâton de bois. Il y avait un enfant de chaque côté du bâton, un qui avait son oreille collée au bâton et l'autre qui tapotait de l'autre côté du bâton pour lui envoyer des messages codés. On ne sait pas ce qu'il s'envoyait comme message. D'ailleurs, peut-être, vas-y, c'est qui ce médecin chelou qui nous regarde ? On ne sait pas. Mais Laennec, ça l'a marqué un petit peu. Et un petit peu plus tard, il a dû ausculter une jeune femme qui se plaignait de problèmes de cœur. Mais il était gêné à l'idée de coller son oreille directement sur sa poitrine. Donc, il s'est souvenu des enfants. Il a roulé une feuille de papier et il l'a appliqué sur la poitrine de la dame pour écouter son cœur. C'était un protocole de pudeur. Mais incidemment, il s'est rendu compte qu'il entendait mieux que lorsqu'il collait son oreille directement sur la poitrine. Et même qu'il entendait d'autres sons, parce que ça amplifiait le son. Alors, il a perfectionné son tube de papier en faisant un tube de bois. Il a commencé ses observations. Et là, il a passé des années à répertorier les bruits qu'on peut entendre dans la poitrine des gens et essayer de déterminer les problèmes de santé dont ces bruits sont le signe. Par exemple, les râles crépitants. qui indiquent la présence d'eau dans les poumons. Les râles sibilants, qui sont généralement le signe d'une obstruction, par exemple, liée à l'asthme. Et tout ça, c'est lui qui l'a catégorisé. Alors, depuis, le stéthoscope, il a été légèrement amélioré. Aujourd'hui, on peut écouter avec les deux oreilles. Il y a un diaphragme qui améliore la captation du son. C'est flexible, mais fondamentalement, c'est le même principe que celui de l'ENEC il y a 200 ans. Bon, l'histoire de l'ENEC, elle finit pas, elle est un peu triste.
Oh non.
Parce qu'il a
changé la fin de l'histoire.
Il a toujours gagné d'argent. Rien.
Si, il a eu beaucoup de gloire quand même avec son affaire, mais il est mort jeune, mais il avait toujours eu une santé fragile, il est mort à 45 ans de la tuberculose.
Ah oui, il n'avait pas écouté.
Il savait la gravité de son problème parce qu'il a demandé à son neveu de lui ausculter la poitrine avec un stéthoscope. Ah oui.
Parce qu'on peut pas s'auto-écouter en fait.
Ça marche moins bien. Et dans son testament, il a légué à son neveu tous ses écrits scientifiques, sa montre, sa bague et son stéthoscope qui était, il l'a écrit, son héritage le plus important. Et aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, dans sa forme modifiée qui est celle-ci, celle que j'ai apportée ici dans le studio, le stéthoscope, c'est devenu le principal symbole du médecin. Il y a même des études réalisées qui montrent que c'est le principal instrument qui donne confiance aux patients lorsqu'ils voient un médecin.
Et ça, c'est un vrai médecin.
Voilà. Et ça veut dire que vous pouvez très facilement vous faire passer pour un médecin, ce qui peut avoir certains avantages, notamment, on l'évoquait lors des jeux de rôle érotiques, parce que c'est vrai que logistiquement, vous mettez ça sur vous, c'est plus facile de se déguiser en médecin, si vous voulez, qu'en pompier ou en contrôleur de la RATP.
C'est beaucoup moins cher. Voilà. En plus.
Et en fait, dès que vous voyez une fille, vous lui proposez d'écouter sa poitrine.
Oui, lui, il enlève le stéthoscope. Il dit, j'ai besoin, pour entendre mieux, j'ai besoin de coller mon oreille. Ça, c'est David.
On vous reconnaît bien là, David. Merci, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre, chaque jour, c'est aussi l'histoire d'une recette avec Olivier Pouls, des recettes qu'on fait parfois au quotidien, et d'autres qu'on a complètement oubliées, comme le saumon en Bellevue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh bien, je vais d'abord vous raconter une petite anecdote personnelle qui m'a permis de remettre la main sur cette recette. Quand j'étais au collège et au lycée, il y a donc quelques années de ça, je faisais partie des enfants qui mangeaient à la cantine. Et il y avait toutes les semaines un échéancier avec le menu qui était indiqué, tout le programme de la semaine. Et il y avait deux choses qui m'intéressaient. C'est le plat que j'aimais le moins, c'était la langue de bœuf. Je pouvais pas y aller. Mais en revanche, de temps en temps, le vendredi, il y avait du saumon en Bellevue. Et quand je voyais le saumon en Bellevue qui plus est, était agrémenté de frites, je peux vous dire que ça me faisait la semaine.
Ouais, ça, c'est une drôle d'association.
Saumon en Bellevue avec des frites. C'était délicieux.
Parce que vendredi, normalement, c'est le moment que les enfants n'aiment pas, parce que précisément, c'est le poisson. Et
Le saumon en Bellevue, j'aimais bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux saumon en Bellevue? Alors, vous savez, c'est un plat qui fleure bon, les traiteurs d'antan, vous savez, où on allait chercher le repas du dimanche midi, on trouvait les aspics, les œufs mayonnaise, céleri rémoulade, tout ça. Et le saumon en Bellevue, présenté entier. Alors, c'est une pièce de poisson, de viande ou de crustacé. Alors, en l'occurrence, c'est uniquement du saumon, évidemment, mais en Bellevue, la dénomination en Bellevue peut s'appliquer à d'autres produits. Et c'est tout simplement un produit qui était cuit dans un bouillon, qui était refroidi, qui est recouvert de gelée et qui est garni de façon un peu kitsch. De plein de légumes, ça y est, on va y mettre des petites tomates cerises coupées en deux, des rondelles de citron, des petites fleurs en légumes qu'on aura à constituer. Et en fait, ça vient du château éponyme, le château de Bellevue, qui était le château de Madame de Pompadour, qui aimait donner de belles réceptions, de grandes fêtes, et pour qui la présentation de ses plats avait évidemment une grande importance. Et donc, on disait en Bellevue, tel qu'on présentait les pièces donc au château de Bellevue. Vous pouvez aujourd'hui faire du saumon Bellevue.
Et c'est quoi ce qui recouvre justement?
C'est de la gelée. D'accord. Alors, vous achetez un saumon, ça c'est pas très compliqué, chez votre poissonnier, entier, très vidé. Important, vidé, exactement. Et puis vous allez utiliser un ustensile qu'on voit plus beaucoup non plus, c'est une poissonnière. Ah, il y en avait toujours dans les cuisines avant, cette grande casserole longue et ovale.
Il y avait ça quand j'étais petit.
Mais oui, qui permet de cuire un poisson entier. Ah, il y en a plus beaucoup maintenant.
Moi, j'en ai eu.
Eh ben voilà, vous allez utiliser votre poissonnière
pour faire des poissons.
Moi, je fais faire.
Bah aujourd'hui, on les cuit plus volontiers au four aussi. C'est plus rare de pocher les poissons. Donc vous allez prendre du court bouillon, vous allez rajouter quelques petits légumes, un verre de vin blanc, et vous allez cuire votre poisson pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça dépend de la taille du poisson. Évidemment, en général, c'est 10 minutes aux 500 grammes. Donc faites le compte. Vous allez le laisser refroidir bien dans ce court bouillon. Vous prélevez un petit peu de ce court bouillon, et avec ce court bouillon, vous faites une gelée, donc dedans vous rajoutez une feuille de gélatine pour 15 centilitres de bouillon, une feuille de gélatine, vous portez à ébullition et là aussi vous laissez refroidir, puis vous récupérez le saumon, on enlève la peau, on lève les filets précautionneusement pour pas qu'il y ait les arêtes qui viennent avec. Et on badigeonne tranquillement le dessus du saumon avec cette gelée qui va, en refroidissant, gélifier. Et puis alors, bah, vous laissez libre cours à votre imagination pour une décoration la plus kitsch possible, hein, des œufs durs coupés en deux. Vous dressez ça sur, voilà, vous dressez ça sur un lit de feuilles de laitue. On rajoute quelques petites crevettes, des rondelles de citron et on fait un beau plat, voilà, façon années 70, façon traiteur de ces années-là.
Ça fait l'effet,
et c'est bon.
Oui,
et on accompagne ça d'une mayonnaise. Voilà, tout simplement.
Alors, c'est une chronique intéressante que vous retrouvez évidemment, comme toutes les recettes d'Olivier, sur le site europe1.fr, mais qui pose néanmoins une question qui relance le débat sur la qualité du système scolaire français par rapport au système scolaire belge, puisqu'effectivement, donc nous, à la cantine, le vendredi, on avait des bâtonnets fin d'us pourris, et eux, en Belgique, ils avaient du saumon comme ça, en belle vue, avec, vous l'avez dit, un assemblage kitsch de petits légumes. Vous étiez dans quelle cantine, en fait, Olivier Pouls?
Je vais vous dire. Non, pas du tout, j'étais pas loin de Bruxelles, j'étais à l'Athénée Royal Paul Delvaux de Tignes.
École publique. L'Athénée Royale, c'est parce que juste ça veut dire public, puisque c'est royal, c'est en Belgique.
Et on avait une chance incroyable qu'on ne voit pratiquement plus, c'est qu'on avait des cuisines intégrées avec des vrais cuisiniers, des vraies cuisinières qui venaient le matin faire à manger.
Deux étoiles Michelin,
des chefs. Et voilà.
C'est la Belgique.
C'est l'école comme on l'aime.
Et Athénée en Belgique, c'est le nom chic pour dire lycée.
On ne dit pas lycée, on dit
l'Athénée. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ont passé la frontière quand ils sont dans le nord.
Pour venir manger notre saumon.
Bien sûr, uniquement pour ça et pas pour des raisons fiscales. Merci beaucoup, Olivier. Stéphane Bern, vous êtes prêt à nous livrer votre mot de la fin avec une expression que vous utilisez tous les jours, Stéphane.
Oui, mais vous êtes
le seul. Se casser la margoulette.
Quand autrefois on était à deux doigts de tomber, quand on trébuchait à la campagne, nos aïeux nous disaient « Fais attention, tu vas finir par te casser la margoulette ». C'est l'expression délicieusement surannée que je vous propose aujourd'hui.
J'aime aussi quand vous dites délicieusement surannée, c'est une jolie façon de dire totalement ringarde. Oui. Quoi qu'il en soit, margoulette, j'imagine que c'est le visage. Goulette, ça ressemble à gueule. C'est une façon enfantine de le dire.
En tout cas, la première fois que l'on trouve trace de la margoulette, c'est Caroline Commanville qui reçoit une lettre de son oncle le 9 septembre 1873. Il est écrit « Mon serviteur hier a manqué de se casser la margoulette en dégringolant du haut d'un noyer. La lettre est signée Gustave Flaubert. Et je le concède, ça ne nous éclaire pas plus sur l'origine du mot. En fait, goulette, ça vient de goule et gueule, comme vous l'aviez pressenti, Mathieu.
Ben oui.
Et mar, ça vient de margouiller, qui signifiait mâcher. Et en Normandie, margane, c'était la mâchoire. D'une façon plus générale, goula en latin, c'est le gosier, et en arabe, goul, c'est le loup-garou, un animal dont la gueule est particulièrement redoutable. Se casser la margoulette, on ne le dit plus trop aujourd'hui chez nos voisins européens non plus, mais de belles expressions cohabitent. En Espagne, pour dire s'écraser le visage, on dit pergarse una hostia. On s'écrase une hostie, ça doit faire mal. En Angleterre, on dit « to do a face plant », qui peut se traduire par un plantage de visage. En Argentine, on est plus poétique. Quand on chute sur la figure, on dit qu'on se casse l'âme. Ça doit être douloureux quand même. Allez, terminons avec un sourire grâce à Victor Hugo. Il y a des gens qui vous laissent tomber un pot de fleurs sur la figure du cinquième étage et qui après vous disent « je vous ai offert des roses ». Soyez prudents tout de même en rentrant chez vous.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Stéphane, vous pouvez, je crois, arrêter de me braquer avec votre stylo bic en imitant le bruit de Terminator. Dites-nous plutôt, lequel de nos personnages armés vous avez préféré, Stéphane, aujourd'hui?
J'ai bien aimé Basil Zaharov.
Sympathique, c'est vrai.
Mais non, justement, parce que c'est bien de se rendre compte de la dangerosité de ses armes et de ce personnage.
Effectivement, et on connaît peu, finalement, à part les lecteurs de Tintin.
Exactement, il faut mieux faire la paix que la guerre. Voilà.
Je
parle comme une Miss France.
Demain, Stéphane, on va parler de ces stars qui ont eu à moitié le même parcours que vous, c'est-à-dire qu'ils ont connu la gloire et les déboires.
Oui, la moitié seulement.
Oui.
Demain, on réunit trois dames qui sont montées très haut et tombées bien bas, c'est vrai. La marquise Luisa Casati, qui a très mal fini. Sylvia Christel, l'inoubliable interprète d'Emmanuel, que tout le monde a vite oublié.
Et Whitney Houston, elle a eu un célèbre bodyguard, mais malheureusement, elle n'a pas été suffisamment protégée. Je vous raconte son terrible destin demain.
À demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.